tout le monde. Nous sommes très heureux d'être là. On arrive juste d'Asie du Sud-Est, où on a vécu pendant 8 années, puis on y retourne tous les ans pour le travail. Donc on arrive juste vendredi, et on repart demain chez nous au Colorado. Donc si jamais il y a des fois où on ne sait pas trop ce qu'on dit ou vous ne nous comprenez pas, juste levez la main ou alors priez pour nous et aidez-nous à nous recaler. Mais en tout cas, on est extrêmement heureux d'être là au milieu de vous ce matin. On vous transmet aussi les salutations d'un endroit un peu plus proche de vous, qui est Créteil. C'est l'église à laquelle on est rattaché. Et c'est une belle œuvre. Comme ici, les choses grandissent. Et ce sont des bons problèmes que vous avez, vous savez. Ce sont des bons problèmes que d'essayer un cinquième culte, parce qu'en fait, ça signifie que l'Église grandit. Et félicitations à tous ceux qui intercèdent en ce moment. Félicitations à tous ceux qui sont venus ce matin, parce que vous êtes au bon endroit.
Oui, on a 5 fils et une belle-fille, notre aînée et mariée. Ils sont tous grands, tous à la fac, donc on sera heureux de les retrouver demain. Mais ils prient pour vous aussi en ce moment et nous soutiennent dans ce que l'on fait. On est très heureux d'être avec vous. On veut vous parler de la famille. On croit vraiment que la famille est dans le cœur de Dieu et qu'il a un projet qui va avoir un impact au niveau éternel. On a parfois perdu ça de vue. On fonctionne dans notre vie comme si ça n'existait plus. Mais en fait, on vit pour demain aussi. Il y a plus dans le plan de Dieu pour notre vie.
Alors on va parler d'un sujet épineux qui nous concerne, nous a concerné ou nous concernera forcément à un moment donné ou à un autre. On va parler du mariage. Alors c'est littéralement un des sujets les plus anciens de l'humanité puisque ça remonte à extrêmement longtemps. Puis en même temps c'est un sujet extrêmement moderne parce que vous avez vu l'actualité est riche sur le mariage. Que l'on habite en Europe, que l'on habite aux États-Unis ou ailleurs, il se pose en ce moment beaucoup de questions sur la nature du mariage, sur sa redéfinition. Et si vous vous en êtes rendu compte, et je suis sûr que c'est le cas, le mariage en fait est l'atome de base de toute société. D'où que vous veniez dans le monde, quelle que soit votre culture d'origine, le mariage est l'atome de la société. Vous brisez l'atome, eh bien, il se passe une réaction en chaîne qui est destructrice. Vous brisez le mariage, eh bien, il peut se passer des conséquences et une autre société est issue de cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église de Jésus-Christ? Est-ce que le mariage est quelque chose qui est devenu complètement désuet et obsolète? Parce qu'au XXIe siècle, il ne s'applique plus à notre vie moderne. Il est périmé comme serait périmé un vieux véhicule qui n'a ni turbo, ni air conditionné, ni quoi que ce soit. Et en fait, on en change pour quelque chose d'autre. Parce qu'on l'entend, ça, vous l'entendez, je l'entends. Est-ce qu'on est complètement obsolète ou bien est-ce qu'on a raison d'être un peu fou et de vouloir donner une dernière chance au mariage dans notre siècle? Alors, c'est ce qu'on voudrait vous partager ce matin. Et je crois que la meilleure des politiques ou le meilleur des témoignages que l'on puisse rendre dans la société dans laquelle on vit, c'est pas tant d'essayer de changer les autres, mais c'est peut-être d'essayer de vivre nos mariages et nos familles selon le standard de Dieu. Et il me semble que ce sera le plus beau des plaidoyers que l'on pourra jamais avoir. Vous savez, le bonheur ne s'invente pas. Si vous êtes heureux dans votre famille, dans votre mariage, eh bien, cela se verra et il y aura des répercussions, un cercle vertueux qui entraînera des personnes à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous êtes heureux. L'Écriture nous dit que si on vous pose des questions là-dessus, eh bien, n'ayez pas peur de rendre témoignage de celui qui est à l'origine de votre bonheur, de votre joie.
Alors, on va faire un voyage dans le passé, on va retourner aux origines pour comprendre quel était le plan de Dieu pour le couple, la famille, puis on va regarder comment le diable a essayé de tout gâcher, et puis comment, en fait, Christ a tout racheté, et puis comment le vivre aujourd'hui. Vous êtes d'accord? On y va? Un petit voyage dans le passé.
Alors, tout commence pour nous, et on a pris une décision de regarder le mariage sous l'angle particulier des deux humains qui ont expérimenté le mariage les premiers. Alors vous savez à qui je fais référence ici?
Adam
et Ève. Alors peut-être que vous allez dire, celui-là, il est complètement cinglé, il croit en Adam et Ève. Eh bien oui, d'accord, j'accepte. J'accepte que vous me preniez pour un hurluberlu, mais pour moi, quand je vois que Jésus y croyait et en parlait, et puis que toute l'Écriture en parle, j'ai tendance à croire que j'y crois aussi, et que si l'Écriture en parle, c'est que c'est vrai. Alors on a choisi cet angle parce qu'en fait, tout a commencé avec eux. Et vous savez, on travaille avec des couples pastoraux, des couples missionnaires, des personnes qui sont dans le service à plein temps, et puis d'autres couples aussi. Et tous les problèmes auxquels on fait face, en fait, on peut les ramener aux problèmes que l'on a vu surgir dans ce premier couple d'Adam et Ève. Le premier verset, un des premiers versets qui les concerne, c'est Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus que un. Ça, c'est la magie du mariage. La magie, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais c'est quelque chose qui est difficile à saisir parfois, et on va en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que l'on vit aujourd'hui dans le cadre de nos familles, eh bien, trouve bon ou mauvais, eh bien, trouve son origine dans ce qui s'est passé entre eux. Le mariage est le projet de Dieu pour l'humanité, et aujourd'hui, on le voit tellement contesté, parce qu'aussi, la plupart de nos difficultés trouvent aussi origine dans ce qui s'est produit ou pas produit entre Adam et Ève.
Adam, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on va le rencontrer, on va peut-être prendre des numéros à tour de rôle pour lui demander des explications. Hein, parce que s'ils avaient pris les bonnes décisions à ce moment-là, on n'en serait peut-être pas aujourd'hui là où on en est. En tout cas, pour comprendre le plan de Dieu pour notre famille, pour la cellule familiale aujourd'hui, une des premières clés à bien garder en tête, c'est le contentement. Vous connaissez Gilbert Rigenbach ? Qu'est-ce qu'il connaît Gilbert Rigenbach ? Gilbert et Denise, hein, bien sûr, quelques-uns, les plus jeunes parmi nous, comme nous. Il avait écrit une chanson qui s'appelait « Si j'avais un vélo ». Ça vous dit quelque chose ? « Si j'avais un vélo, ah, je serais tellement plus heureux ». Et puis le deuxième couplet, « Si j'avais une moto, je serais tellement plus heureux. Si j'avais une voiture, je serais tellement plus heureux. Si j'avais enfin encore mon vélo, parce que maintenant il était pris dans les embouteillages à Paris, si j'avais encore mon vélo, alors là je serais plus heureux. » Vous savez, avec des si, je serais plus heureux, on oublie de garder les yeux fixés sur le plan de Dieu pour notre vie. Le célibat, aujourd'hui, a une connotation négative dans nos têtes, mais c'est mal comprendre le contentement et là où on trouve son épanouissement. On ne trouve pas son épanouissement dans notre statut marital, mais dans notre relation avec Christ. Que, vous savez, quand Jésus va revenir nous chercher, en tant qu'époux, n'est-ce pas, il va revenir nous chercher tous, les célibataires, les mariés, les non-mariés, tous, peu importe notre statut marital. Ce n'est pas ça qui va nous définir dans l'éternité au ciel. Il n'y aura plus de mariés-femmes. On sera tous l'épouse de Christ. C'est Christ notre époux. Donc, on va garder ça comme donnée de base. Ça ne dépend pas de votre situation maritale pour vous de trouver le contentement, en fait. Il va dépendre, le contentement, votre joie, va dépendre de votre relation avec Christ.
Donc, en gros, ce que tu dis, c'est attention au piège.
Oui.
Demain, si je me marie, je serai plus heureuse ou plus heureux. C'est pas forcément, si tu n'es pas heureuse ou heureux maintenant, dans la situation qui est la tienne, eh bien peut-être que ce mécontentement voyagera avec toi et tu l'entraîneras ailleurs. Ce qu'on voudrait vous parler aujourd'hui, par rapport au mariage, c'est que, en fait, c'est le plan de Dieu et ce plan de Dieu n'a pas changé. Notre société peut avoir évolué, elle a évolué, c'est une certitude. Mais ce qu'on voudrait vous partager, c'est qu'en fait, ce que Dieu a déclaré bon pour l'homme, eh bien, il n'a pas changé d'avis. Et en fait, le plan de Dieu au travers du mariage, c'est qu'il puisse transmettre à l'humanité toutes sortes de choses. Et on voudrait s'arrêter un petit peu sur ces différentes transmissions qui sont en fait les objectifs que Dieu poursuit, qu'il poursuivait, qu'il poursuit encore au travers du mariage.
La première chose que Dieu nous a transmise avec Adam et Ève dans le mariage, c'était notre identité en fait. Quand Dieu a créé l'homme avec un grand H, quand il a créé Adam et Ève, il l'a créé à l'image de qui ? À l'image de Dieu. Merci de nous aider, hein, ça nous aide là avec plus vous participez avec nous, plus on se sent soutenu. Il l'a créé à l'image de Dieu. Adam et Ève n'avaient pas se posé la question, mais où est mon identité ? À qui je ressemble ? Dieu les a créés à son image. Voilà la première chose, la première transmission que Dieu avait prévue en créant ce modèle de la famille. Notre identité qui est en Christ.
Alors, on reviendra sur la question d'identité parce qu'en fait elle est essentielle et elle est souvent à l'origine de la plupart de nos crises spirituelles. On passe tous par des hauts et des bas et souvent en fait notre identité est remise en question et on ne sait plus qui l'on est. Une autre transmission, c'est le besoin d'être dans une relation. Et je voudrais revenir donc à Adam. Vous savez qu'en fait on se rend compte que le besoin d'être dans une relation était infusé dans le cœur d'Adam par le cœur de Dieu. Et c'est intéressant de voir que Dieu avait déjà créé l'idée d'amener Ève à Adam avant que cela ne se fasse, mais on le voit dans ce verset de Genèse 2,18 où il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Vous êtes d'accord avec ça ? Mais en même temps, eh bien, on voit que quelqu'un, voilà, il y a des enfants qui ont dit « Amen », moi j'aime bien ça, c'est bien, il faut dire, on est d'accord avec ce que dit l'Écriture. En tout cas, Dieu ne va pas forcer Ève sur Adam, il va attendre. Il a déjà le projet, bien sûr, de créer Ève, mais il attend. Et il attend quoi? En fait, il attend qu'Adam prenne conscience de son manque. Et je vais peut-être m'arrêter quelques instants pour parler plus aux messieurs ici, mais vous avez déjà repensé à la situation d'Adam, à ce moment-là de sa vie. Tout ce qu'il vit est parfait. Il a une relation qui est parfaite avec Dieu, puisque le péché n'est pas encore entré dans ce niveau-là de la création. Il a une intimité. Dieu et lui sont comme deux amis qui vont se parler. Rien ne les sépare. Il a une connaissance parfaite de son appel et de ses responsabilités. Il sait qu'il est le gardien de la création. Il nomme les plantes, les arbres, etc., les animaux. Il sait quelles sont ses responsabilités. Il connaît aussi les limites. Il sait qu'il ne doit pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est clair, Dieu lui a dit, donc il sait où sont ses limites. Il a un corps qui est parfait. Ça, messieurs, je pense que tous, on rêverait d'en être là. Certains, peut-être, y sont encore, merci Seigneur. Il a, vous savez, les 6 tablettes de chocolat, pas en forme de Nutella, mais en forme bien dessinée. Et peut-être qu'il n'avait pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour y arriver. Et il vivait dans le plus bel endroit du monde. Il vivait dans le jardin d'Éden. Honnêtement, en tant qu'homme, qu'est-ce qui lui manquait à ce moment-là qu'il nous fasse rêver? Il avait tout à la perfection.
Et pourtant.
Il lui manquait quelque chose. À un moment donné, dans Genèse 2:20, il nous est dit « Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » C'est intéressant. Bien qu'il ait tout à la perfection, humainement parlant, on peut le croire, en fait, il y a un vide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'attend pas d'Adam qu'il ressente un manque dans son identité. Ce n'est pas à ce niveau-là. Il sait qui il est bien établi dans son identité avec Dieu, mais il a un manque au niveau de son besoin de relation. Il est seul et communiquer avec les animaux, parler avec eux, comme il pouvait le faire à l'époque, on le voit, il parle avec le serpent plus tard, ce n'est pas suffisant. Et donc Dieu, vous savez, va le mettre en sommeil, il va faire la première opération chirurgicale, puis il va prélever une côte, c'est-à-dire sous son épaule, c'est-à-dire près de son cœur, et c'est là que doit être votre épouse, près de votre cœur et sous votre épaule, pas sous votre pied, mais proche de vous, proche de ce qui est précieux. Gardez l'image en tête, elle sera utile. Et quand finalement Dieu va amener Ève vers Adam, il lui dit, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis, et souvent le mot aide est mal compris. Il faut qu'il soit compris dans le sens, en fait, je t'apporte celle qui sera ton complément, celle sans laquelle tu ne te sentiras jamais complet. Si vous faites des puzzles, certains d'entre vous, peut-être que certains en font, peut-être c'est un truc qui disparaît petit à petit, moi j'aimais bien les puzzles, maintenant je les fais sur mon iPad, comme ça c'est plus pratique que d'emmener la boîte avec les milliers de pièces, surtout si on voyage dans les aéroports souvent comme nous. Mais dans le passé, quand vous faites un puzzle de 1000 ou plus de pièces et qu'il vous en manque une, et que finalement, là, un endroit où elle n'aurait jamais dû être, vous la retrouvez, eh bien, quelle est votre joie quand vous la retrouvez? C'est la pièce la plus précieuse, parce que c'est celle qui complète l'ensemble. Et c'est le désir de Dieu que, eh bien, de la même manière, notre conjoint soit la pièce la plus précieuse, celle que l'on chérit particulièrement. Et Adam a expérimenté une relation avec Ève et puis avec Dieu, ils étaient un en trois en quelque sorte.
Alors vous commencez à voir se dessiner le plan divin pour le couple, n'est-ce pas? Un, la transmission de l'identité. Deux, la transmission d'un besoin relationnel. Dieu nous a créés à son image et il a choisi d'avoir une relation avec nous. Trois, c'est la transmission de la vie. Alors bien sûr, elle est évidente, Dieu a donné cet attribut qui lui est propre de transmettre la vie, il l'a donné à la création. On peut transmettre la vie concrètement. Les êtres célestes, anges et démons, n'ont pas cette capacité-là, mais il l'a donnée, Dieu l'a donnée, a choisi de la donner à la création, à sa création, donc l'homme et la femme aussi. Mais ce n'est pas simplement au niveau physique. Dans le plan de Dieu, la cellule familiale, alors soit vous êtes vous-même des parents, soit vous avez des parents, on appartient tous à une cellule familiale. Quand on grandit, dans les petites années de notre vie, et Dieu a prévu que la compréhension de ce qu'aimer veut dire, on l'acquiert en regardant nos parents interagir en tant que papa et maman avec nous, en tant que mari et femme l'un avec l'autre. On ne se rend pas compte, mais quand un enfant est en train de grandir dans les premières années formatrices en fait, de qui ils sont, de qui on est en tant qu'enfant, eh bien, l'interaction, ce que l'on voit, Dieu avait prévu que ça soit pour nous ce qui va construire notre compréhension de ce qu'aimer veut dire, de ce que recevoir de l'amour veut dire. Et comme Dieu est amour, on va aussi comprendre une définition de Dieu en regardant nos parents vivre entre eux et avec nous. Vous voyez l'importance que ça a ? Combien d'entre vous aviez réalisé ça ? Pas beaucoup, quelques-uns, très bien, mais pas beaucoup. On élève nos enfants en s'assurant qu'ils aient assez à manger, qu'ils soient bien vêtus pour aller à l'école, vite, vite les devoirs, et c'est une course effrénée, on ne se rend plus compte l'importance du plan de Dieu au niveau de l'éternité dans notre rôle de parent. Quand on dit à un enfant, tu es nul, ou tu es méchant, ou tu n'arriveras jamais à rien, qu'est-ce que ça fait dans le cœur de cet enfant ? Ça fait qu'en grandissant, eh bien, il sera toujours à la recherche de l'approbation. Il n'arrivera jamais, même en tant qu'adulte, à être sûr de sa valeur. Si on lui dit ce que tu fais, ce n'est pas bien. Alors on les aide à comprendre la notion du bien et du mal. Tout ça, Dieu a prévu qu'on l'acquiert, qu'on l'apprenne dans le cadre de la famille. La transmission de la vie, c'est un des points importants du plan divin de Dieu pour la famille.
Et en fait, cette transmission, c'est une loi qui est naturelle, comme la gravitation universelle. Vous savez, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Si vous prenez un avion et que vous sautez sans parachute, il va vous arriver quelque chose de redoutable. Vous pouvez croire ou ne pas croire, cela s'applique à vous. De la même manière, vous pouvez croire ou ne pas croire dans la transmission, elle s'applique à vous aussi. Vous pouvez croire en Dieu et ne pas y croire. Eh bien, s'il y a un enfant, l'enfant, cette transmission s'appliquera à lui ou à elle, ou bien il se construira avec des éléments positifs ou bien il se construira sur des manques et des vides. Et c'est facile de comprendre, par exemple, qu'il est difficile pour certains d'entre nous, et c'est peut-être votre cas ce matin, d'appeler Dieu papa quand votre papa a été absent ou bien quand votre papa n'a pas été un papa à la hauteur. Alors bien sûr, intellectuellement, on peut faire la différence, mais émotionnellement et spirituellement, c'est parfois difficile d'appeler Dieu mon père ou mon papa, parce que papa veut dire souffrance pour nous. Si par exemple vous n'étiez visible de votre père, je n'ai rien particulièrement contre les papas, mais malheureusement ce sont des blessures qui souvent nous suivent pendant le temps d'une vie. Si vous n'étiez visible que quand vous aviez les meilleures notes possibles, quand vous aviez marqué un but au foot ou je ne sais, eh bien quelle est la projection spontanée, naturelle que vous allez mettre à cause de cette règle de transmission sur Dieu ? C'est que si je ne fais pas des choses pour chercher et essayer de plaire à Dieu, eh bien je ne mériterai pas son amour. Et ça, c'est redoutable, parce que on vit avec cette souffrance émotionnelle, on n'est pas sûr de l'amour, et peut-être même qu'on n'a pas été aimé pour qui l'on était dans le foyer dans lequel on a grandi, et ça nous concerne tous. Et si j'ai pas été accepté pour qui je suis, alors comment est-ce que je peux croire que quand je l'entends que Dieu m'aime? On a vu même des pasteurs, des fois, nous dire, mais je sais que Dieu aime et je le prêche, mais je ne le crois pas pour moi. Comment est-ce que c'est possible qu'on fasse une telle dichotomie ? Parce qu'on a de la peine à y adhérer, parce que dans la transmission qui s'est produite quand on était enfant, peut-être qu'on a eu des vides et qu'il a fallu se construire avec ces vides. Ça a du sens, ce qu'on est en train de vous dire ?
Vous voyez, toutes ces transmissions, comme elles sont importantes, elles se passent dans le cadre de la cellule familiale. Une autre, c'est le libre arbitre. C'est une des caractéristiques de Dieu aussi. Il a choisi de nous donner le choix. Il n'a pas fait de nous des robots. Il ne veut pas qu'on l'aime parce qu'on est forcé. Il veut qu'on choisisse de l'aimer. Le mariage, c'est la même chose. C'est un choix. Je ne sais pas si vous avez réalisé, nous on sort du mariage de notre fils, donc on était un petit peu dans les robes de mariée, tout ça, c'est formidable. Mais moi je suis effrayée.
Ce n'est pas notre fils qui portait la robe.
Non, on a une super belle fille, notre belle fille est très mignonne, elle me demandait mon avis, c'était très très gentil. J'étais effrayée de voir les sommes d'argent, c'est la première fois qu'on a un mariage dans nos enfants, c'est pas la dernière, on en a quatre à venir, donc j'étais effrayée de voir les sommes d'argent et le stress autour de la journée du mariage. Et le reste, le lendemain, la vie de famille, la vie de couple, est-ce qu'on s'y investit autant ? C'est un choix d'aimer. Vous savez, le droit au bonheur dans le mariage, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas « je me marie avec toi pour que tu me rendes heureuse ». Ça, ce n'est pas la définition de l'amour de Dieu pour l'homme et la femme. C'est « je me marie avec toi pour ce que moi je vais t'apporter ». C'est ça la définition de l'amour de Dieu. Et si le mariage, ce n'était pas fait pour nous rendre heureux au démarrage, mais pour notre sanctification, Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui êtes mariés, c'est que quand on est marié, d'un seul coup, il y a des choses qui se mettent en évidence, sur lesquelles il faut qu'on travaille, on apprend qu'on n'est pas si patient que ça, ou qu'on peut se mettre en colère, etc. La sanctification, c'est le premier fruit du mariage, parce que l'un avec l'autre, on va apprendre avec Dieu. La corde à trois fils, vous savez, qui ne rompt pas facilement. Le mariage, c'est trois en un. Le mari, la femme et Christ. Avec tous les trois, on va y arriver à aller plus loin. Et alors, le byproduct, le fruit, ce qui va ressortir du mariage, c'est bien sûr l'épanouissement. On va en parler. Vous voyez les différents points qui sont extrêmement importants à comprendre, mettre en éclairage de la transmission qui se passe dans le cadre de la famille. On passe tout cela sous l'ombre et on passe à côté de trésors quand on ne le réalise pas.
Vous avez déjà commencé à le comprendre et vous le vivez. En fait, le mariage... c'est toujours le projet de Dieu, mais quelque chose s'est passé entre-temps. Le péché est entré dans l'humanité. Et en fait, eh bien, l'adversaire, parce que nous avons un adversaire, a cherché à détruire ces structures qui étaient voulues par Dieu pour que la transmission soit parfaite de génération en génération. Évidemment, on le sait tous, il y a de la souffrance. Et je voyais certains sourires s'afficher. Vous avez remarqué que ce qui vous attirait avant que vous soyez mariés, c'est précisément ce qui vous divise après, parfois. Vous aimiez vraiment son aspect, toujours avoir envie de faire quelque chose, envie de sortir, et puis parce que vous êtes plutôt du style réservé, vouloir lire un livre à la maison, et après, une fois que vous êtes marié, c'est précisément ce même genre de choses qui, quand votre époux, par exemple, ou votre épouse veut sortir, vous n'avez pas envie, et ça commence à créer des petites tensions, et rapidement, on s'aperçoit que, eh bien, il faut y travailler, parce que ce n'est pas simple, comme Rachel vient de l'expliquer. Il y a un verset que dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28, je me demande toujours pourquoi on ne le prêche pas lors des cérémonies de mariage. C'est Paul qui parle et il dit, et il est inspiré je pense, « Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. »
C'est une bonne introduction pour un jour de mariage, non ?
Je me suis toujours demandé pourquoi on ne choisissait pas ce verset pour les cérémonies, parce qu'au moins ce serait un, assez réel, non ? Au moins ce serait dit, voilà, exactement. Alors, est-ce que Paul parlait de son expérience ? On ne sait pas s'il était marié ou pas. Certains disent qu'il devait l'être, vu qu'il avait une bonne expérience de ces choses. Je tendrais à penser qu'il l'était, mais comme la Bible ne le dit pas, on ne peut pas l'affirmer à 100%. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'une des premières choses que l'adversaire va attaquer dans le mariage, c'est notre identité. Vous vous rappelez, on en a parlé, dans la transmission, la première, c'est « qui je suis ». Et la première chose qui va être attaquée entre Adam et Ève, c'est leur identité, et c'est par là que tout arrive. Et vous connaissez ce passage dans la Genèse où Adam et Ève vont être tentés par Satan qui prend la forme d'un serpent. Et il leur dit, il leur annonce cela en gros, si vous faites, c'est-à-dire si vous mangez de ce fruit, alors vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. En gros, il leur dit, il faut que vous le fassiez quelque chose pour que vous deveniez, parce que ce que vous êtes n'est pas suffisant. C'est le même mensonge qu'il va apporter à Christ. Si tu es le Fils de Dieu, alors fais quelque chose. En sous-entendu, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas. Et il a attaqué l'identité. Et bien souvent, nous sommes attaqués au même niveau. Et c'est le même mensonge. En fait, tu n'es pas assez de ceci, trop cela. Et en gros, c'est qui tu es n'est pas suffisant. Il te faut faire pour être. Et on va courir toute notre vie en faisant des choses, en espérant qu'à force de faire, on finira par être. Je voudrais dire, si vous cherchez votre identité au travers de ce que vous faites, vous ne la trouverez jamais. Vous ne partez pas du sourire de Dieu que vous avez, et alors vous faites à partir de cela, mais vous courez après ce sourire en oubliant votre identité en lui. Ça a été une catastrophe pour Adam et Ève, ils ont péché, et c'est la même chose pour nous, ça nous donne un sentiment d'impuissance. Je fais, mais je n'y arrive pas, je suis toujours en deçà des attentes qu'il y a, et en fait, c'est comme ça qu'un couple commence à prendre l'eau, parce que si qui je suis n'est pas suffisant, qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas d'espoir.
On le vit dans le couple. C'est très important toujours de comprendre comment le diable fonctionne. Ça nous aide à aller déceler ces attaques-là. On le vit aussi dans notre marche avec Christ. Il est simple pour nous de comprendre qu'on est sauvé par grâce, qu'il n'y a rien à faire pour acheter notre salut. On n'aurait jamais pu acheter notre salut. Il a fallu le sang de Christ sur la croix pour racheter notre salut. Et pourtant, après, on a l'impression qu'il va falloir faire plus pour la suite de l'histoire. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Non pas parce qu'on va faire pour, on va pas le servir et essayer de faire des choses pour décrocher son amour, n'est-ce pas ? L'identité, elle est en Christ. Voilà une transmission que le diable a essayé de détruire.
Dans l'attaque de notre identité, la première chose qu'on va voir se produire dans le cœur d'Adam, vous vous rappelez, on revient toujours au couple d'origine, en fait, c'est qu'il va y avoir une perte de conscience ou une absence de conscience de son rôle. Il va y avoir ce qu'on appelle un déni d'autorité, c'est-à-dire il ne va pas prendre la position qui était naturellement la sienne, précisément parce qu'il doute de qui il est. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces versets qui vont s'afficher derrière moi. Dans 1 Timothée, Paul dit « Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, c'est-à-dire Ève, et elle a désobéi au commandement de Dieu. » Donc c'est elle la première qui a désobéi. Mais en même temps, dans Romains, toujours Paul dit « Mais par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort atteint tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. » Puis d'une manière répétitive, il dit « C'est la faute d'Adam, c'est la responsabilité d'Adam. » Alors il y a un truc qui est paradoxal là. C'est la faute d'Adam ou c'est la faute d'Ève? Elle a péché la première en prenant le fruit, mais c'est lui qui est responsable de l'entrée du péché dans l'humanité. Comment vous comprenez ça, vous? C'est les deux, c'est pas faux, c'est même juste. Mais souvent, quand la Bible vous offre un paradoxe, qu'elle semble se contredire, considérez cela comme une croix sur une carte au trésor. La croix, elle indique quoi sur une carte au trésor? Elle indique le trésor, elle indique son emplacement. Il y a toujours une vérité qui est précieuse à découvrir quand la Bible semble être en contradiction avec elle-même. En fait, oui, Ève a concrètement pris le fruit défendu la première, mais il y avait quelqu'un qui était responsable avant elle. Celui...
Les sœurs sont d'accord.
Amen. J'ai entendu que des sœurs dire amen. Vous savez quoi? On rit, mais c'est vrai. Parce que vous savez quoi? La même chose se passe encore aujourd'hui. Adam n'a pas réalisé qu'il était responsable. C'est lui qui avait reçu toutes les directives avant que Ève ne soit créée. Et il était où? Il était au champ? Il était là avec elle pendant qu'elle dialoguait avec le serpent. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire, attends ma chérie, qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'ai nommé, je te connais, qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que Dieu m'a dit. Il aurait dû protéger sa femme en s'interposant entre l'adversaire et elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté derrière parce qu'il avait commencé à mordre à l'hameçon, il ne savait plus qui il était et il a eu un déni d'autorité, il n'a pas pris la position qui est la sienne. Et la tragédie, c'est qu'il va suivre Ève. Et quand Dieu va venir vers eux, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Dans un élan de générosité et d'amour, qu'est-ce qu'il va dire?
Allez messieurs, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça, c'est sa femme, tout le monde dit.
C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. En gros, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Il va blâmer Ève. Et au passage, il blâme qui d'autre? Il blâme Dieu. Et vous savez quoi? Ce déni d'autorité, ce déni de protection, ce déni de responsabilité, cette accusation et ce blâme portés contre l'épouse et contre même Dieu, qu'on accuse d'être responsable de ce qui nous arrive, il y a quelqu'un qui vient de dire, bah ouais, c'est ça. Eh ben oui, on le vit au quotidien. On le vit encore. Et c'est tragique parce que, messieurs, je voudrais m'adresser à nos frères, si vous êtes en projet de mariage, comprenez-le maintenant, vous vous sauverez beaucoup de souffrance à vous et à votre épouse. Et si vous êtes marié, eh bien, Dieu cherche des hommes qui aient du courage. Et c'est quoi le premier courage? C'est de reconnaître nos erreurs et de se repentir. Parce que vous savez, la culpabilité nous coince et ne nous donne pas de solution. Elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est la conviction de péché. Et la conviction de péché nous dit, voilà, là tu as pris un chemin qui n'était pas le mien, mais il y a une sortie. Il y a une solution et avec Christ, il y a toujours une solution. Malheureusement, tout autour de nous, on voit une pauvre compréhension chez les hommes de ce que signifie être le leader spirituel de notre couple. Et le monde souffre de l'absence des hommes à leur place dans le royaume de Dieu. Et je crois que c'est un problème qui est crucial aujourd'hui. Il y a une fuite des hommes devant leurs responsabilités dans le couple. Peut-être même certains ne veulent même pas s'engager dans le mariage parce qu'ils n'osent pas s'engager, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils peut-être n'ont pas vu de modèle et ils ne savent pas. Alors ils ont des partenaires X, Y et Z, mais ils ne s'engagent pas dans une alliance. Et puis aussi, à cause de ça, ils fuient dans le travail, ils fuient dans les loisirs. Et Nous, on travaille beaucoup sur des champs missionnaires, mais c'est la même chose ici. La France est un champ missionnaire. Et je peux vous dire qu'on voit beaucoup de jeunes femmes célibataires qui servent Dieu, mais des hommes, ils sont rares. Pourquoi ? Le diable fait une œuvre qui le trompe. Il attaque les hommes parce que si les hommes doutent de qui ils sont, eh bien, ils n'entrent pas dans la position qui est la leur en Christ. Parce que le diable redoute un homme qui se lève pour Dieu. Est-ce que certains d'entre vous comprenez, mes frères, ce que je suis en train de dire ? C'est tellement important, l'Église a besoin d'hommes, de jeunes et de moins jeunes qui se lèvent et qui disent « J'ai besoin de prendre cette position parce que c'est celle que Dieu me donne. J'ai assez couru dans la mauvaise direction. » Parce que l'Église a besoin d'épouses qui sont aimées parce que les hommes ont compris ce qu'aimer une femme veut dire. Pas égoïstement, mais centré sur elle. Puis l'Église a besoin aussi, et la société, d'hommes qui ont compris ce qu'est le rôle d'être un papa. Les enfants dans les cités, etc., vont dans tous les sens et meurent du fait qu'ils n'ont pas eu un modèle à la maison d'un papa qui savait s'occuper d'eux. Dans la nature, c'est un besoin. Chez les êtres humains, c'est encore plus criant.
Pour la femme, donc Eric a beaucoup parlé du rôle du mari ici, de l'homme, c'est extrêmement important. Mais vous savez, quand les hommes ne prennent pas leur place, il y a des conséquences chez les femmes. Les femmes vont se sentir en insécurité. Et comme la nature a horreur du vide, si le mari ne prend pas sa place en tant que leader spirituel, qu'est-ce qu'elle va faire, l'épouse ? Elle va la prendre. Parce que pour se sentir en sécurité, puisque lui ne la prend pas, elle va ressentir le besoin de contrôler. Et voilà, tout est à l'envers. On a une lutte de pouvoir entre le mari et la femme. Oh, le diable, il a été fort sur ce coup-là. Il a tout déséquilibré un tout petit peu, fait douter l'homme de son identité. Fermer les yeux à l'homme et à la femme sur l'importance de fonder son couple et sa famille sur des valeurs que Dieu transmet. Et voilà, à l'envers, maintenant on fonctionne. La femme qui est en contrôle, etc. Mari, aimez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Il y a un vrai équilibre là derrière. Pour que le mari doit apprendre à aimer sa femme, parce que ça n'est pas naturel pour les messieurs de le faire. Sinon, la Bible ne prendrait pas la peine de faire ses recommandations. Et la femme doit apprendre à respecter son mari, parce que ça ne lui est pas forcément naturel aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là, on n'a pas le temps ce matin. Mais vous comprenez bien que l'ennemi numéro un dans cette histoire-là, ce n'est pas mon conjoint. Ce n'est pas on va blâmer l'homme ou on va, parce qu'il ne tient pas son rôle, ou on va blâmer la femme parce qu'elle essaye d'être en contrôle, etc. L'ennemi numéro un, c'est Satan. Ce n'est pas le manque de conjoint, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas le manque d'enfants, ce n'est pas les enfants, c'est le déséquilibre qu'il a créé. Et le fait que nous, on a fermé nos yeux et on a perdu de vue l'importance de la famille dans une perspective d'éternité, en fait. Ce que l'on construit aujourd'hui a un impact sur nous, sur nos enfants et dans l'éternité. L'ennemi numéro un, c'est vraiment Satan.
Et en fait, si on voit aujourd'hui le couple, le mariage tellement agressé de toutes sortes de manières où on essaie de le redéfinir et on dit qu'en fait ça n'a plus aucun intérêt, etc. Le diable, je me répète, fait une œuvre qui le trompe. Ça signifie quoi ? Ça signifie que son objectif numéro un depuis le début de la création de l'humanité, c'est de détruire le mariage. C'est de détruire des couples, c'est de faire grandir des enfants dans des scénarios où ils vont être en souffrance dès leur plus jeune âge. Cela, c'est ce qui se passe autour de nous. Et malheureusement, eh bien, on voit des divorces, on voit toutes sortes de souffrances. Et Jésus est clair, le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu. Il y a une exception, et encore, je crois même qu'avec cette exception qui est pour cause d'infidélité, eh bien, Dieu veut quand même donner une chance. Alors, je ne suis pas en train de dire si vous êtes dans une relation où il y a des abus, où il y a un danger physique, où il y a quelque chose où votre vie est en danger. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester là à tout prix. Par contre, si un jour dans votre vie vous êtes passé par le divorce, même si ce n'était pas le plan de Dieu, ce que je sais, c'est que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il est là pour pardonner.
Amen.
Oui, ce n'était peut-être pas son plan, mais il est capable de pardonner et il veut que vous vous pardonniez à vous-même. Peut-être que si certaines d'entre vous sont venus ce matin, comme on l'a entendu avant de prendre la Sainte-Seine, comme le pasteur Biava le donnait, peut-être que certains sont venus avec des décisions quasi prêtes, quasi prises dans leur cœur. Et peut-être que certains se disent, maintenant c'est fini, je mets un terme à cette relation parce que je n'en peux plus. J'aimerais vous dire, si vous vouliez considérer le mariage comme Dieu le considère, c'est-à-dire comme une alliance qui est éternelle, pas un contrat que l'on peut rompre, et si vous donniez une chance à Dieu de vous montrer que le mariage est toujours d'actualité à ses yeux, à lui. Et que quand on prend cet engagement devant lui, Dieu est sérieux et il a la puissance pour bénir ce qui est impossible à l'homme de bénir. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et si ça vous semble impossible de vous en sortir, si vous donniez à Dieu une chance de vous prouver que lui peut faire ce qu'il ne vous est pas possible de faire. Est-ce qu'on est toujours dans un sujet d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher nos familles? Combien d'entre nous avons connu autour de nous ou nous-mêmes peut-être des divorces, des déchirures, des couples qui se brisent alors que pourtant ils avaient tout pour réussir parce que nous avons un adversaire? J'aimerais vous dire, il a été vaincu et au niveau du mariage, il est vaincu aussi.
On pourrait vous en raconter pendant des heures entières de couples qui avaient même divorcé et qui ont fait confiance à Dieu, qui se sont rapprochés de lui, et des couples reconstruits, même sur des cendres. Le lumignon qui fume, il fume. Ça veut dire que la flamme est éteinte déjà, mais il fume. Dieu a la capacité de souffler un souffle de vie sur cette situation-là et de vous donner de voir des miracles au niveau de la famille, parce que c'est encore une fois dans le cœur de Dieu. Et si c'est possible, c'est parce que Christ est intervenu.
Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais Christ s'appelle aussi le second Adam. Je trouve que c'est étonnant qu'il s'appelle le second Adam. Pourquoi est-ce qu'il va s'appeler le second Adam? Parce qu'en fait, là où le premier a échoué, lui va réussir. Là où le premier est resté derrière, oubliant son identité, quand Satan a tenté Christ, il n'a pas mordu à l'hameçon. Christ est resté vainqueur. Il n'a pas douté de qui il était. Et ce que Adam n'a pas su faire avec Ève, Christ l'a fait avec nous. Il est notre fiancé, il nous appelle son épouse, celle qu'il va, quand il aura les noces de l'agneau, il épousera l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui attendent son retour, dont l'espérance est vivante. Et nous avons péché, mais Christ a porté notre péché à notre place. Lui s'est intercalé entre Satan, l'accusateur, et nous, et il a pris ses responsabilités d'époux. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire qu'en fait, nous avons en lui un modèle et qu'il n'est pas trop tard. Si, je voudrais m'adresser particulièrement à mes frères ici, mais si tu marches avec Christ, tu as en lui un modèle pour savoir comment marcher dans ton couple, quelle position prendre, ce que veut dire être un leader spirituel. Tu as une responsabilité, tu as les clés de ton couple. On pourrait passer des heures à vous écouter et dire, mais souvent on a dans notre bureau des... Vous allez peut-être trouver que c'est difficile à croire, mais on a des fois des couples pastoraux et le monsieur vient et dit « Ma vie est vraiment bien, le seul problème c'est ma femme, est-ce que vous pourriez vous occuper d'elle ? Et puis après ma vie sera vraiment parfaite. » Vous savez, en général on sait qu'on va passer beaucoup de temps dans la semaine avec lui. Parce qu'il a besoin de prendre conscience que c'est lui qui a la puissance pour bénir, pour protéger, pour chérir, pour aider.
Donc vous voyez, la vision de Dieu pour le mariage, le diable qui a essayé de tout détruire, Christ qui a racheté, grâce à lui, on peut aujourd'hui dire que ça fonctionne. L'équilibre dans le couple, ça fonctionne. On va vous encourager à lire ces trois passages qui vont s'afficher chez vous. Ici, sur l'écran, vous allez voir Psaume 112, Éphésiens 5 et Proverbe 31. Notez les références, lisez-les chez vous et regardez comment les trois s'équilibre. Proverbe 31, je ne vais pas avoir le temps de développer ça, mais regardez et demandez au Seigneur qu'il vous montre comment tout se met en équilibre et que ça fonctionne. Proverbe 31, c'est la description de la femme vertueuse. La femme vertueuse, dans cette description-là, dans ces proverbes, ce n'est pas un objectif à atteindre inatteignable pour nous, mesdames. C'est souvent décourageant quand on nous le présente comme ça. Il faut que vous soyez parfaites, qu'on fasse tout bien. Attention, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Ici, le proverbe nous présente une situation d'une femme qui est à contre-courant par rapport à son temps. C'est une femme d'affaires qui fonctionne dans un temps où elle n'avait même pas le droit normalement de sortir seule, pas accompagnée. Il lui fallait un homme dans son contexte. Prenez le temps de regarder tout ça. Et pourtant, elle est là, épanouie. Elle utilise au maximum tous les dons que Dieu a mis en elle. Pourquoi ? Pourquoi elle a cette liberté-là ? Parce que son mari... qui n'est pas un fainéant assis à la porte de la ville et qui ne fait rien du tout. Son mari qui est assis à la porte de la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une position respectée, respectable, et très certainement, il a dû se battre et faire ce qu'Éric vient de vous décrire, se mettre devant sa femme et la protéger, pour qu'elle puisse s'épanouir et vivre les dons que Dieu lui a donnés. Vous voyez l'équilibre, comment il fonctionne? Le mari aime sa femme, c'est-à-dire qu'il va lui donner tout ce dont elle a besoin, qu'il va l'encourager, qu'il va voir en elle les dons que Dieu a mis en elle, qu'il va l'aider à se développer. Et en faisant cela, la femme le respecte sans difficulté et lui ramène du respect sur lui. S'il était à la porte de la ville, c'est que c'était un homme respectable. Et très certainement, la position de sa femme amenait cela sur lui. Mari, aimez votre femme. Femme, respectez votre mari. C'est possible. Dans le modèle de Dieu, ça fonctionne.
On va bientôt terminer, mais il y a encore une chose qu'on voudrait vous partager, c'est que le mariage est un outil pour notre épanouissement. Et toujours en revenant à Adam et Ève, vous avez sans doute noté quand vous avez lu qu'ils étaient nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Évidemment, tous, quand on lit ce passage, on pense uniquement à la nudité physique. Or, en fait, ce n'est pas qu'une nudité physique dont il est question, mais c'est une nudité aussi émotionnelle et spirituelle. Ça veut dire quoi ? C'est une vulnérabilité. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui les séparait l'un de l'autre. Et j'aimerais vous dire, en fait, ça doit être notre objectif, notre ligne de conduite, notre direction, notre boussole, la lumière du phare que l'on suit. Est-ce que j'ai cette vulnérabilité avec mon épouse, avec mon conjoint, au niveau émotionnel ? Ou bien alors, est-ce que j'ai peur de souffrir, alors j'ai peur de lui faire mal, ou j'ai peur d'avoir mal, alors je cache certaines choses et je ne partage pas tout ? Est-ce qu'il y a des choses entre vous où vous n'êtes pas sûr de pouvoir les partager parce que vous n'êtes pas sûr de la réaction de votre conjoint ? Si tel est le cas, alors peut-être qu'il est temps d'ouvrir la connexion. Parce que, mes frères, vous avez avec vous, à vos côtés, quelqu'un qui fonctionne avec la connexion émotionnelle. Et si vous fuyez cet endroit-là, eh bien, vous privez votre épouse d'oxygène dont elle a besoin pour s'épanouir. On a besoin d'être connecté au niveau émotionnel. L'Écriture dit « l'amour parfait bannit la crainte ». Cette crainte, remets-la entre les mains de Dieu et puis viens parler avec ton conjoint. Ce n'est pas facile, mais ça s'apprend comme toute langue. Au début, on balbutie, puis après, on apprend petit à petit à mieux la parler. Au niveau spirituel aussi, vous n'êtes pas l'un sans l'autre. Aux yeux de Dieu, vous êtes un. Vous avez besoin de prier l'un pour l'autre et de prier ensemble. Ça nous a sauvé la vie, tous les deux, Rachel et moi, d'être connectés au niveau spirituel. À un moment, elle était dans un pays et moi dans un autre, et quand un accident lui est survenu, je l'ai senti dans mon cœur, ça m'a permis de prier pour elle. Est-ce que vous savez ce qu'est la dernière chose que Dieu ait dite à votre conjoint ? Si vous ne le savez pas, peut-être que ça veut dire qu'il faut y travailler, parce que vous êtes un et Dieu veut que vous connectiez à ce niveau-là aussi. Et puis bien sûr, peut-être que certains auraient aimé qu'on en parle plus longuement, mais on ne pourra pas. Mais cette nudité, cette vulnérabilité, elle est bien sûr aussi au niveau physique. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit épanoui au niveau physique dans le couple. Et ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans du puritanisme. Qu'est-ce que le puritanisme ? C'est déclarer mauvais quelque chose que Dieu a créé et que Dieu a déclaré bon. J'aimerais vous dire qu'on vit dans un monde, surtout en France, où pour vendre un pot de yaourt, on va avoir une femme nue sur une affiche. C'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai. Et on a un surmatraquage de sexualité et pourtant il y a une misère à ce niveau qui est peut-être plus grande qu'elle n'a jamais été. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de le vivre en dehors des standards de Dieu. Or si on remet notre sexualité dans les standards de Dieu, elle est faite pour être épanouissante pour ceux et celles qui la vivent. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mauvais dedans. Au contraire, c'est fait pour qu'elle nous épanouisse et c'est un cadeau que Dieu nous donne.
Donc on remet Christ au centre de la famille, on remet les yeux fixés sur l'éternité, parce que ce que l'on construit aujourd'hui dans nos couples, avec nos enfants, va avoir un impact pour l'éternité. On donne du matériel, des briques à nos enfants pour construire leur vie à eux. Que votre plafond soit leur plancher, que vos enfants aillent plus loin que vous, qu'ils découvrent plus avec Dieu, que les gens vous regardent vivre et puissent dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette famille ?» En fait, c'est Dieu, c'est Christ au centre de votre famille. C'est ça l'importance de la cellule familiale. On prie pour que chacune des familles ici, représentées dans cette salle, dans cette église, puisse avoir un impact autour, que vous ayez un impact autour de vous en réalisant le projet de Dieu sur votre vie.
On va s'arrêter ici, on a dit ce que l'on voulait dire Rachel et moi, et je vais vous inviter, peut-être avec les musiciens qui peuvent revenir sur l'estrade, je vais vous inviter simplement à vous positionner. On l'a entendu au moment de la Sainte-Cène, certains sont venus avec des décisions déjà prises dans leur cœur, dans lesquelles peut-être Dieu n'a pas eu son mot à dire. Et si le Seigneur voulait que vous donniez une chance au couple, que vous remettiez en cause les choses dans lesquelles vous croyez parce qu'elles ne sont pas fondées sur l'Écriture. Je vais prier pour vous, et puis si vous voulez répondre à ce message pour vous seul, simplement on ferme nos yeux, levez-vous à votre place et répondez à Dieu par l'affirmative en vous levant, « Seigneur, aide-moi ». On va se laisser conduire par la musique et puis on va demander à Dieu qu'il nous aide. Jésus. Seigneur Jésus, il y a devant nous ceux et celles qui sont les éléments de ton peuple, Jésus. Ceux et celles pour qui tu as donné ta vie et pour lesquels tu as des projets de croissance et de bénédiction au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je te prie pour ceux et celles qui se lèvent et peut-être ceux aussi qui n'ont pas osé. Je te prie pour ceux qui sont dans la souffrance au niveau de leur famille, qui sont dans le combat, dans les douleurs. Je te prie pour que maintenant, ils puissent faire ce pas de foi qui semble insensé, de donner une chance au mariage, de donner une chance au couple comme toi tu le veux, afin que le monde voit au travers d'eux que tu es vivant, afin qu'ils redeviennent le sel de la terre et la lumière du monde, et qu'autour d'eux, comme Rachel vient de le dire, des personnes se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Ils étaient sur le bord de divorcer et puis quelque chose a changé en eux. Seigneur, que la vie passe à nouveau, parce que tu nous le dis, le monde, l'univers passera, mais ta parole, pas un trait de lettre ne sera oublié. Et dans ta parole, nous croyons dans l'institution du mariage. Merci de répondre, Seigneur, à ceux et celles qui sont debout devant toi maintenant. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.
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 Que Dieu vous bénisse.